À l'heure où nous remplissons nos déclarations de revenus, l'État sait déjà que nos impôts ne suffiront pas à couvrir les dépenses publiques. Le budget sera encore une fois en déficit. Et il vient d'apprendre que l'endettement, l'autre levier de financement de ses besoins, va lui coûter de plus en plus cher. Septième hausse en moins d'un an, la Banque Centrale Européenne a décidé aujourd'hui de relever encore une fois son taux dit directeur.
Les prévisions concernant l'inflation continuent d'être trop élevées sur une trop longue période de temps. Au vu de la pression inflationniste importante qui sévit actuellement, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de relever ses taux d'intérêt de 0,25 points.
Des taux d'intérêt plus élevés et donc une dette à rembourser mécaniquement plus importante. Avec un endettement public qui frôle déjà les 3 000 milliards d'euros, le gouvernement affiche son inquiétude.
Cette dette n'est pas gratuite. Elle doit évidemment être remboursée. En 2027, Bruno Le Maire vient de l'indiquer, la charge de notre dette devrait s'alourdir de 10 milliards d'euros du fait de la remontée des taux d'intérêt par rapport à la prévision précédente que nous avions. Bientôt, le remboursement de notre dette sera le premier budget de l'État.
Il est tout frais, il est de cet après-midi 3,75. La Banque Centrale Européenne a donc relevé aujourd'hui ses principaux taux directeurs. Conclusion, les taux d'intérêt de la BCE sont aujourd'hui au plus haut depuis octobre 2008.
Et pour... Même si, assez paradoxalement, en ce moment, les taux d'intérêt à 10 ans de l'État augmentent moins vite que ceux de la BCE. On est dans une situation un peu aberrante, un peu paradoxale, encore une fois, où les taux d'intérêt à long terme sont inférieurs aux taux d'intérêt à court terme. Là, 3,75% c'est à court terme, oui. Mais l'État place en ce moment sa dette à 3% environ. Et donc, la répercussion n'est pas encore totalement acquise. C'est-à-dire, il va y avoir encore, je pense, sur les marchés, une augmentation du taux d'intérêt qui va subir l'État. Et ce qu'il y a d'important, c'est que quand le ministre dit on va rembourser la dette, on ne rembourse jamais la dette. On paie des intérêts. C'est différent. Rembourser quand vous êtes sur un particulier qui a fait un emprunt immobilier, vous, vous remboursez la dette. C'est-à-dire, vous payez des intérêts et puis vous remboursez ce que vous avez emprunté. L'État, jamais. L'État se contente de prolonger à l'infini les dettes qu'il a faites et il paie des intérêts. Et ces intérêts, effectivement, maintenant, c'est 50 milliards dans le budget.
Oui.
Donc quand même 50 milliards, le budget de la défense c'est 44 milliards, l'impôt sur le revenu c'est 80 milliards. Donc vous avez quand même 50 milliards qui partent, non pas pour équiper
l'impôt sur le revenu rapporte.
Rapporte 80 milliards.
Oui, c'est ça.
Et donc vous imaginez la ponction que ça fait sur, ce que les Français consacrent au fonctionnement de l'État.
Parce que la dette c'est 2000 milliards.
Cet argument qui a été avancé pour dire justement qu'il fallait un peu rétablir les finances et de dire que ça allait permettre soit de maintenir une notation, soit de maintenir un niveau d'endettement. C'est très difficile qu'une réforme en soi puisse fondamentalement changer les choses et le taux d'endettement. C'est beaucoup plus la cohérence de la politique qui est importante. Parce qu'en effet, on s'endette sur les marchés. Les marchés nous prêtent parce qu'on a une certaine qualité, un certain rating, mais aussi parce qu'on a une certaine cohérence gouvernementale. Donc si ça faisait partie de tout un programme, si tout ça était très cohérent, ça serait compris de la part des marchés. Là, on s'expose aussi au risque de dire bon, qu'est-ce qui va se passer d'autre. C'est un peu d'ailleurs ce que l'agence de notation Fitch a posé.
Alors justement, vous faites là une transition toute trouée.
L'État se financera un peu plus cher parce que ces notations, si vous voulez, c'est ce qui indique le risque de défaut. Alors normalement, un État, c'est un emprunteur très particulier qui présente un risque de défaut beaucoup plus faible parce qu'un État ne meurt pas, un État ne fait pas faillite. Cela étant, il peut y avoir quand même des crises de dette souveraine, des crises de finances publiques. Et donc, les marchés, bien entendu, arbitre continuellement entre le risque et le rendement. Donc un titre de dette souveraine, ça peut ne pas rapporter beaucoup, mais quand ça ne rapporte pas beaucoup, eh bien il faut que ce soit un titre très sûr. Si ça devient un titre moins sûr, eh bien c'est un titre qui doit faire l'objet d'une rémunération plus importante. Je voudrais juste peut-être revenir sur un point, parce que Jean-Marc nous disait tout à l'heure, un État ne rembourse jamais sa dette.
Oui.
Mais moi je ne dis pas les choses comme ça. Un État roule sa dette, ce qui est différent. Ça veut dire que l'État, pour rembourser une dette passée, est obligé de contracter finalement une nouvelle dette. D'accord ? Donc l'État a une charge de la dette, c'est-à-dire le montant des intérêts à payer, et il roule sa dette. Mais plus la dette est grosse, plus il y a une grosse dette à rouler, et plus les nouvelles dettes contractées ne sont pas des bonnes dettes, comme dirait Anne-Laure, parce que ce sont des dettes qui servent à rembourser les dettes anciennes, et ce ne sont pas des dettes qui servent à investir dans l'avenir.
Mais Jean-Marc Daniel...
Il faut bien voir qu'il y a derrière tout ça un acteur qui est rentré dans le jeu relativement récemment, parce que normalement, d'après les traités, il ne devrait pas être là, qui est la Banque Centrale. Et donc, la Banque Centrale Européenne est devenue le principal. Alors, par l'intermédiaire de la Banque de France, en fait, puisque le tuyau va vers la Banque de France. Mais c'est la Banque Centrale Européenne qui est le principal détenteur. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Avec une question.
Quoi?
Quantitative easing, la politique D'accord. monétaire. La question qui se pose, c'est combien de temps elle va faire pour racheter? Parce qu'elle ne l'achète pas en direct. Elle la rachète à des gens qu'on appelle des spécialistes en valeur du trésor, qui sont les institutions financières qui ont le droit d'acheter la dette publique. Mmh. Ensuite, il y a les Français qui détiennent de la dette, et ça, c'est l'assurance vie.
Ouais.
Et puis, il y a les étrangers. Une partie de notre dette est détenue par l'étranger. Alors, on ne sait pas très bien qui détient quoi, mais...
C'est la moitié. Hein.
Oui, c'est la moitié.
La Banque Centrale qui détient le principal.
Oui, mais parce que c'est plusieurs acteurs étrangers. Le principal détenteur étranger, c'est le fonds souverain norvégien. Il en détient presque autant que la Banque Centrale Européenne, mais pas tout à fait autant.
Et la question fondamentale. Parce que trop souvent, on parle de dettes sur PIB qui, franchement, déjà ne sont pas un bon ratio, mais en plus, ce n'est pas le ratio pertinent. Parce que vous allez au Japon, on est au-delà des
200%. Dettes sur PIB, c'est le pourcentage par rapport au produit intérieur brut. Je dis pour ceux qui n'ont pas fait écho, mes lettres, voilà.
La question de qui détient est éminemment importante en termes de souveraineté. Parce que justement, ce fameux ratio qu'on utilise, si on va au Japon, il est au-delà, très au-delà de 200%.
Mais
la dette japonaise est détenue et quasi en intégralité par des Japonais. Voulant dire, avec une banque centrale indépendante. Donc voulant dire que s'il y a des ajustements à faire dans l'économie, on s'ajuste entre guillemets entre nous. Il y a également des politiques différentes au sein de l'Europe sur les sujets de détention. L'Italie détient par exemple beaucoup, les Italiens détiennent beaucoup plus leurs dettes que les Français. Donc là aussi, c'est une mesure politique prise pour qu'il y ait cette chose qui soit favorisée. Donc ça, c'est vraiment la question importante quand on regarde l'endettement.
Vous vouliez ajouter un truc.
Oui, si vous me permettez de revenir sur la dette japonaise. En fait, elle est détenue pour moitié par la Banque centrale du Japon, la BOJ. D'accord ? Donc c'est la Banque centrale, en fait, qui assure la soutenabilité de la dette japonaise. Et c'est la raison pour laquelle le Japon peut en effet présenter un ratio de dette publique plus élevé. Mais à partir du moment où les banques centrales font face à de l'inflation et se croient obligées de lutter contre en remontant les taux d'intérêt, comme vient de le faire la Banque centrale européenne, eh bien, avec le resserrement de la politique monétaire, les banques centrales ne peuvent plus se permettre d'acheter des titres de dette publique sur les marchés comme elles le faisaient auparavant. Et donc, ça renchérit ensuite le coût de la dette et ça rend beaucoup plus difficile la soutenabilité de la dette.
On est très très loin de la faillite. Alors, je crois que cette question de couper dans les dépenses devrait se poser quel que soit le niveau de dette. Je sais que c'est peut-être un peu étonnant comme propos, mais c'est quand même vrai. Parce que soit une dépense n'est pas bonne ou ne doit pas être faite, elle ne doit pas être faite qu'on ait beaucoup de dettes ou qu'on n'ait pas de dettes. Soit c'est vraiment une dépense qui est éminemment nécessaire, et dans ce cas-là, elle doit être faite. Je ne crois pas que ce soit le bon raisonnement qui consiste à dire il y a 100%, ce fameux dette sur PIB, 110, parce qu'on disait qu'au-delà de 100, tout allait être une catastrophe, tout s'effondrait, etc. Ben, on est bien au-delà, et rien ne s'est effondré. Donc ça ne veut pas non plus dire qu'il faut avoir 300% de dette sur PIB. La question, c'est comment est-ce qu'on dépense cet argent. C'est ça qui est éminemment important. Parce qu'on peut, dans des périodes données, avoir 20%, 30% de plus de dette sur PIB que ce qu'on, entre guillemets, devrait avoir, parce qu'on doit remettre à niveau un système de santé, une politique d'éducation. Et ça, ça le justifie tout à fait, parce que si c'est bien fait, on va après pouvoir voir la diminution de sa dette.
Jean-Marc Daniel, il faut aussi serrer la ceinture.
Oui, je pense qu'il faut se serrer la ceinture et je pense que...
Ça veut dire quoi
Ce que l'expérience a prouvé, c'est que quand c'était le privé qui le faisait, c'était mieux fait que quand c'était le public. Et donc, il faut effectivement faire en sorte que l'argent soit bien utilisé.
Ils ne vous diront pas ça, avec le chemin de fer, par exemple.
Justement, vous n'avez pas connu les chemins de fer dans les années 70. Bon. Donc moi, si, donc je peux vous dire que ça fonctionne mieux maintenant.
C'est pire que pire, quoi. En fait.
c'était encore pire dans les années 70 quand c'était public. Et donc, je pense qu'effectivement, pour revenir à la Grande-Bretagne,
à la France.
Oui, oui, mais
on parle pas de la Grande-Bretagne.
Du 19e siècle, qui s'appelait Gladstone, dit chaque fois que vous dépensez une livre d'argent public, posez-vous la question de savoir si la personne à qui vous avez pris cette livre, soit sous forme d'impôt, soit sous forme de souscription de l'emprunt, ne l'aurait pas mieux utilisée. Et donc je pense que le véritable enjeu, c'est de se poser la question de savoir pourquoi l'État se mêle d'autant de choses. Et la deuxième réflexion que je ferai, c'est que, pour revenir sur ce qu'on a dit, c'est que l'argent est utilisé beaucoup pour garantir des revenus, pour garantir un certain niveau de vie, et ça se traduit par le fait que nous importons beaucoup, on maintient le pouvoir d'achat de la population avec la dette publique, avec comme conséquence qu'on importe beaucoup, et donc notre dette publique devient de la dette extérieure. C'est-à-dire que on a parlé de souveraineté, on a parlé du fait que la dette publique était détenue par les étrangers. Elle est détenue par les étrangers parce qu'effectivement, on achète beaucoup à l'étranger, et les étrangers reçoivent une partie de nos revenus, et à ce moment-là, ils le réinvestissent chez nous. Et donc, il faut corriger ça pour retrouver notre souveraineté.
Réduire les impôts, c'est réduire les recettes, d'accord? Et donc, réduire les recettes, c'est creuser le déficit public à dépenses constantes. Et donc, c'est, si vous voulez, c'est s'exposer à une dette qui va encore augmenter. Donc, il y a vraiment...
C'est pas réaliste, ces annonces.
Non, c'est pas du tout réaliste. Et il y a une forme d'incompatibilité, en fait. Il y a une incompatibilité fondamentale entre, d'un côté, un besoin de dépenses énorme. Et là, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc quand il dit il faut serrer la ceinture. Oui. En fait, on a besoin de dépenses pour restaurer l'école, l'hôpital, l'université, tous nos services publics, pour investir dans la transition écologique. D'accord. Donc, on a besoin de ces dépenses-là. Et si vous voulez, dans le même temps, effectivement, quand l'État emprunte sur les marchés, eh bien, il se soumet aux exigences du marché et donc il est obligé d'assurer la soutenabilité de sa dette. Eh bien, c'est incompatible. Ça veut dire qu'en fait, il faut chercher des solutions alternatives. Il y a une chose avec laquelle je suis d'accord du côté des partisans, je dirais, des défenseurs de l'austérité. En fait, la dette, ce n'est pas le bon instrument pour financer des dépenses de biens communs.
C'est quoi, là ?
Donc, ben, il faut penser à d'autres formes de financement. Il faut que l'État se finance non pas sur les marchés, en empruntant sur les marchés, en se soumettant aux exigences du marché. Sinon, ces dépenses-là de biens communs, on ne pourra jamais, en fait, les financer. Alors, il pourrait éventuellement se financer directement auprès de la Banque centrale. Ça resterait une dette, mais la pression serait différente. Ce ne serait plus la pression du marché, ce serait une exigence un peu moindre de la Banque centrale. Sinon, on peut penser à des mécanismes beaucoup plus innovants, en passant par exemple par une caisse de développement durable qui bénéficierait de subventions de la Banque centrale. La Banque centrale subventionne les banques. Pourquoi elle ne subventionnerait pas une caisse de développement durable ?
C'est totem. Je crois qu'on les a quelque part dépassés. Hein. Je crois que ces différentes crises font qu'on a pris du recul par rapport à ça. Ce qui est par contre vrai, parce que vous parlez de l'Europe, c'est qu'il y a trois types de pays. Il y a les pays qui ont déjà réussi à résorber ce que j'appellerais leur dette Covid. Il y a ceux qui ont résorbé la moitié.
Le quoi qu'il en coûte,
voilà, dont d'ailleurs aussi d'autres pays non européens comme les États-Unis. Et puis il y a ceux, et la France en fait partie, qui n'ont pas réduit du tout cette dette. Donc ça creuse l'écart. Par exemple, dans les pays que je vous mentionnais, qui ont réduit leur dette quasiment et qui sont revenus au niveau pré-Covid, vous avez des pays aussi étonnants que le Portugal ou même d'ailleurs la Grèce. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe et quel est le problème si on regarde le sujet européen? C'est la divergence que vous avez de plus en plus entre les pays. Et c'est pour ça que ce que dit Isabelle est très intéressant. Il faudrait arriver à caractériser le type de dépenses, le type de dette. Il y a des dépenses communes. Il y a des dépenses et donc qui doivent vraiment
faudrait les mutualiser.
Plus mutualiser, c'est-à-dire quand c'est du bien commun, ça doit être mutualisé. Quand c'est particulier, ça peut être particulier. Et cette distinction-là n'est pas faite. Et pour revenir à la question qui était, par exemple, les droits de succession, tout ça, c'est cohérence de l'action publique. Vous pouvez difficilement ouvrir un débat sur les droits de succession sans poser la question de la rente versus le travail. C'est de temps en temps, quand les choses sont incohérentes ou ne marchent pas, c'est parce qu'on n'a pas posé l'intégralité du sujet.
Enfin, pardon, mais...
Quoi qu'il en coûte, c'était un moment particulier. Le problème, c'est que dès le mois de septembre, on a continué avec France 2030 et on est sorti du quoi qu'il en coûte pour reprendre un certain nombre de dépenses qui n'avaient plus rien
à voir. Donc on ne met pas 100 milliards dans le rail, par exemple, alors qu'on nous dit qu'il est dans un état terrible.
Écoutez, on peut mettre 100 milliards dans le rail, mais à ce moment-là, on le finance par des impôts et par les tickets des usagers. Et c'est ce qu'on a fait au 19e siècle. Je rappelle quand même qu'on s'est équipé sur le plan écologique, en tout cas énergétique, on a construit des mines, c'est le secteur privé qui l'a construit sans qu'il y ait d'argent public. Et le secteur des chemins de fer, ça a été la même chose. On peut continuer et recommencer à faire la même chose.